Allume mon micro, ça sera pas long. Alors ce matin, on est toujours dans une série que je vous ai dit que j'apportais pour faire un peu le lien entre l'année 2017 et 2018. Une petite série sur la famille qui va se terminer, non la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc, ce matin, le titre du message, c'est « Comment préparer l'avenir d'un enfant? » Alors, si vous pouvez avoir votre Bible ou votre téléphone électronique, et ainsi que peut-être un bout de papier pour prendre les notes des versets surtout. Donc, comment peut-on préparer l'avenir d'un enfant? Et on sait tous qu'il y a de nombreux problèmes avec les enfants et surtout les jeunes ados. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une solution? Ou ben non, est-ce une fatalité? Et je suis content que mon frère Serge va prêcher, va enseigner sur des résolutions pour que nos jeunes à nous puissent prendre de bonnes résolutions. Non pas que je ne crois pas, mais ce que j'ai de la misère avec, c'est que souvent, on ne les tient pas. Mais c'est mieux de commencer une bonne chose. Et à force de continuer, on y arrive. Donc, est-ce qu'il y a une solution? Ou bien non, est-ce que c'est une fatalité? Peut-on prévenir certains problèmes? Et enfin, qui est responsable de cette dégradation? Est-ce que c'est la société ou est-ce les parents? Et à force de me poser la question durant la semaine, je me dis ceci, la rébellion, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une chose que l'on doit juste dire, « Ah ben, il n'y a plus rien à faire. Hein? » Mais il faut, par contre, avoir l'aide de Dieu tout en faisant notre part. Donc, ce matin, on est tous des parents. Souvent, nos enfants ils ont grandi, mais on est grands-parents aussi. Puis on a, non pas une responsabilité directe, mais oui, une certaine responsabilité à ce que nos enfants enseignent à leurs enfants ce que le Seigneur a à dire. J'aimerais que vous tourniez dans le psaume 78 et on va regarder les versets 5, 6, 7 et 8. Donc, le psaume 78. Et on arrive au verset 5. Et je vais peut-être m'arrêter en chaque verset pour un peu expliquer. Il, c'est Dieu, évidemment, a établi une règle pour son peuple, nous. Hein? Même si on parle de l'Ancien Testament ici, aujourd'hui, en 2018, c'est nous, son peuple. Il a institué une loi en Israël. Elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. L'histoire, c'est évidemment tout ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Et ça, il fallait que les parents enseignent ces victoires-là à leurs enfants. Et verset 6, « Ainsi la génération qui suivrait celle des enfants à naître, la connaîtrait à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants, de mettre leur confiance en Dieu, de ne pas oublier ce qu'il a fait et d'observer ses commandements. » C'est ça que les enfants, des enfants, devaient apprendre, de mettre leur confiance en Dieu, de ne pas oublier ce que Dieu a fait et d'observer ses commandements. Alors, ils n'imiteraient plus cette génération de leurs ancêtres qui fut indocile et rebelle de cœur, inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. Parce qu'il y a eu dans cette génération-là, des ancêtres, c'est-à-dire de cette génération-là, des gens qui n'ont pas observé ça. C'est important, frères et sœurs, que nous, qui avons un témoignage depuis, je ne sais pas, 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans dans le Seigneur, qu'on puisse parler à nos enfants, leur raconter ce que Dieu a fait pour nous, insister pour qu'ils puissent obéir à la parole de Dieu, qu'ils puissent la lire. Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il affirme que l'instruction biblique sera plus forte que l'hérédité. Autrement dit, c'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne qu'automatiquement tu deviens un chrétien, qu'automatiquement tu reçois les bénédictions ou quoi que ce soit. C'est pas à cause de l'hérédité que tu es peut-être, tu es devenu, c'est-à-dire un chrétien. C'est par l'instruction biblique et par la foi. Tes parents t'ont enseigné la parole, ou ben non, ça peut être aussi autre chose, mais par l'instruction biblique, quelqu'un t'a parlé du Seigneur, et par la foi, tu as accepté. Mais, comme parents, comme grands-parents, on pourrait se demander où se trouvent les solutions. Où se trouve l'appel au bon sens, parce qu'on voit la manière que ça s'en va. Je vais dire comme une expression québécoise, ça sent mieux que pas. Qu'est-ce qui va nous pousser à réfléchir? Pour donner à nos enfants cette instruction-là qu'on a besoin, bien, il y a les proverbes. Dans les proverbes, il y a beaucoup, beaucoup d'instructions. Regardez le proverbe 1, verset 3. Je vais aller peut-être un peu plus rapidement, là, parce que, à cause du temps. Donc, Proverbe 1, verset 3. Qu'est-ce que les proverbes font? C'est qu'ils enseignent à vivre de façon intelligente en ayant un comportement juste, équitable et droit. Vous savez, une des habitudes que j'avais puis que je veux reprendre cette année, c'est de lire un proverbe à chaque jour, à chaque mois qui a 30 jours. Vous allez me dire, oui, février, il y a 28 jours, mais c'est pas grave, t'en lis deux de plus. Mais chaque mois qui a 30 jours, je vais lire les 30 proverbes qui sont écrits. Et à force de les lire, on apprend à savoir quelle est l'intention de Dieu? Qu'est-ce que ces proverbes-là peuvent nous enseigner? Il y a aussi l'enseignement de la nature, et je vais m'expliquer. On va aller dans 1 Corinthiens 11, verset 14. 1 Corinthiens 11, verset 14. Et Paul va nous dire ici que la nature nous enseigne qu'il est indécent pour l'homme de porter les cheveux longs. Bon, ça, c'est un exemple que j'ai pris. Bon, aujourd'hui, on pourrait dire, on ne portera pas de jugement sur quelqu'un qui a des cheveux, là, des cheveux longs, mais l'explication de Paul, je pourrais vous amener un message là-dessus par rapport à qu'est-ce qui est le contexte dans lequel Paul dit cela dans 1 Corinthiens 11, 14. Et c'est pas mon intention ce matin, mais je vais y revenir. Donc, la nature elle-même nous enseigne. Et enfin, l'enseignement de la Bible. Et si vous voulez, on va aller dans le plus grand des psaumes, qui est le psaume 119, et qui est le verset 9. Psaume 119 au verset 9. Quand on est jeune, comment garder une conduite pure? Et remarquez bien ce qui est écrit, en observant ce que tu as dit, Seigneur. Et ce que tu as dit, Seigneur, c'est dans sa parole, c'est dans la Bible. Lire d'une façon systématique la parole de Dieu, mais pas seulement la lire, mais la méditer aussi. Et il y a toutes sortes d'outils pour le faire. Je vous ai mentionné tantôt qu'il y a le pain quotidien, mais pour ceux qui ont peut-être plus d'années dans le Seigneur et puis qui veulent avancer plus vite, il y a d'autres manières d'étudier la parole de Dieu. Mais ça, c'est un bon moyen de commencer. Chaque verset, on peut le méditer. Et enfin, regardez la petite leçon, puis regardez ce que dans notre vie ça peut faire. Pour nous aider à instruire nos jeunes, notre jeunesse, bien c'est justement dans l'enseignement de la parole de Dieu que nous allons pouvoir trouver des moyens. Maintenant, il y a une autre question qui se pose, puis c'est celle-ci. Est-ce qu'on fait face à des problèmes d'enfants ou à des problèmes d'adultes? Parce que la question se pose, hein? Tournez avec moi dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Et juste pour introduire un peu ce que je vais lire dans le passage, c'est que, je vous l'ai dit la semaine passée, on vit dans des temps difficiles. Et on peut dire que l'on vit dans les temps de la fin. Et Paul dit à Timothée ici, « Rappelle-toi bien ceci, dans les derniers temps. » Imaginez-vous, là, Paul parle à Timothée plus de 2000 ans passés, bien, à peu près 2000 ans passés, et il dit « dans les derniers temps ». Imaginez-vous si on n'est pas rendu dans les derniers temps, hein? Il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil, ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Vous arrêtez pour méditer là-dessus, vous en avez peut-être pour quelques jours, puis vous allez sortir de là découragé. Mais ce n'est pas le but de Dieu. C'est pour Paul, ce qu'il veut dire ici, c'est qu'on est dans des temps où ce que l'on voit, c'est le malin. Qui est en train de prendre le dessus. Il n'y a pas si longtemps, hein, on était quand même dans une religion qu'on appelle la religion catholique, catholique romaine, et il y avait quand même une certaine structure, et on pouvait marcher tout seul, puis sans avoir peur de se faire attaquer, puis en tout cas, j'énumère pas toutes les choses. Mais aujourd'hui, on n'en a plus. Les parents n'ont pas enseigné à leurs enfants la suite. Peut-être parce que les parents n'ont pas reçu l'instruction. Donc, les enfants d'aujourd'hui, parlez-leur de Jésus, puis ils ne savent pas c'est qui. Voyez-vous pourquoi c'est important? Si vous demandez à vos enfants c'est qui Jésus, vous êtes sûr qu'ils vont vous répondre. Les enfants, dans les derniers jours, ne connaîtront ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni piété, ni affection. Je me rappelle mon père qui me racontait des choses à propos de son père, mais il y avait du respect quand même. Il y avait aussi de la reconnaissance. Mais aujourd'hui, comment de fois on voit des enfants qui se rebellent contre les parents. Encore une fois, les enfants seront sans cœur et sans foi. Ils seront implacables dans leur haine, incapables de se discipliner. Leur préoccupation exclusive sera la satisfaction personnelle, l'argent. Dans les derniers temps, la situation au détriment de la famille et des enfants. Et la conséquence sera des enfants irrespectueux envers des parents frustrés d'amour. Et on va voir des enfants remplis de haine. Ceux qui travaillent dans le domaine écolier, pour les écoles, nous, moi et Joanne, on fait du transport. Guyane, je sais qu'elle fait de la garde, elle garde les enfants pendant la récréation ou les heures de dîner. C'est effrayant de voir de la façon qu'ils agissent. Et nos enfants sont avec eux. Et gloire à Dieu, ceux qui sont capables de prendre position, mais ce n'est pas facile pour eux autres non plus. On croit tous, et j'espère, que l'enfant a besoin d'être instruit par ses parents. Le Proverbe 5, je vais aller encore plus loin. Le Proverbe 5, verset 23, il dit ceci. « Celui qui ne sait pas se dominer, celui qui n'est pas capable de se contrôler, cause sa propre mort. Et l'excès de sa bêtise lui fait perdre la tête. » Dès la naissance d'un enfant, il doit prendre en compte de sa vie physique, de sa vie affective, mais aussi de sa vie spirituelle. Sans ça, qu'est-ce qui arrive? S'il n'est pas capable de se dominer, il va faire des bêtises, puis il va en perdre la tête. Et l'ignorance d'un de ces aspects-là va conduire l'enfant à des graves problèmes. Allons dans 2 Timothée, au chapitre 3 et verset 1. Je vais glaner un peu sur les temps difficiles. 2 Timothée 3, verset 1. Rappelle-toi bien ceci. Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Quand les temps sont difficiles, ce sont les plus faibles, hein, qui sont les plus exposés. Donc, on pourrait dire nos enfants. Hein? Nos enfants sont exposés à tout ce qui est mal dans le monde. Et le psaume 82, verset 5, nous dit ceci, nous dit ceci, « Mais vous ne savez rien, vous ne comprenez rien, vous êtes dans le noir, avançant à tâtons, et de ce fait, le monde menace ruine. » C'est ça que les temps difficiles consistent à. Alors, on va aller un peu plus en avant dans le psaume 11, verset 3, qui dit ceci, les valeurs de la société sont en miettes. Que peut faire alors le fidèle? C'est ça. C'est à ça qu'on fait face. Les fondements spirituels, moraux, familiaux, socio-éducatifs sont sans dessus-dessous. Le mal est appelé le bien. Et la réponse, comment est-ce qu'on peut faire pour être capable de passer au travers de cela? Bien, le psaume 11, au verset 1, nous dit, « J'ai mon refuge auprès du Seigneur. » Chers parents, c'est là qu'on peut être sauvé. Sauvé de ce monde pervers-là. Refugions-nous auprès du Seigneur, auprès de sa parole. Il nous a laissé justement ses deux testaments pour qu'on puisse être enseigné dans ce qu'on appelle la parole de Dieu. Et l'Église veut faire en sorte que tous ses participants puissent jouir de l'enseignement de la parole. C'est ce qu'on fait le mercredi soir. C'est ce qu'on fait lorsque notre frère Luc va enseigner le dimanche matin. C'est ce qu'on fait pour les rencontres d'hommes et de dames. C'est ce qu'on fait le dimanche matin. Regardons ce que nous dit Jésus au sujet du mal et du bien. Et si vous voulez, tourner dans Matthieu 13, verset 30. Alors, Jésus enseigne ses disciples, évidemment. Et il dit ceci, « Laissez-les pousser ensemble. » Il parle du bien et du mal, ou qu'est-ce qu'on appelle l'ivraie et le bon blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler, puis pour rentrer le blé, le blé dans mon grenier. Ça serait facile si Dieu aurait dit, OK, je vais prendre tous ceux qui sont sauvés, puis je vais les amener dans une belle place. Hein, aujourd'hui, on penserait peut-être au chaud, là, parce qu'il fait pas chaud dehors. Puis eux autres, ils vont être préservés, puis tous les méchants, on va les laisser là. Il aurait pu faire ça. Mais dans sa volonté, Dieu a voulu qu'ensemble, nous soyons ensemble. Donc, on est avec les méchants. Et le mal, évidemment, c'est livré ici, pousse en même temps que la bonne semence. Donc, il y a une croissance de l'œuvre du malin, l'œuvre du mal, en même temps que de la croissance de l'Évangile. Les deux poussent en même temps. Et dans Matthieu 24, au verset 12, le Seigneur nous dit, « Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. » Et ça commence à se faire sentir. On est de plus en plus indépendant. Il n'y a pas de chaleur. Il ne faudrait pas que ça attaque l'Église, ça. Hein, je viens dimanche matin, je m'en vais chez nous, tout est fini. Voilà ma chaleur pour les frères, les sœurs. Méfions-nous, parce que c'est ça qui arrive. Ce qui veut dire aussi que l'amour se refroidit, c'est-à-dire à cause de la croissance du péché. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Prenez-les en note. « Ne vous laissez tromper par personne d'aucune façon, car ce jour ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale et qu'apparaisse la méchanceté personnifiée, l'être destiné à la ruine. » Donc, ce qui va arriver, évidemment, c'est que l'Antéchrist va apparaître. Maintenant, gloire à Dieu, nous serons enlevés, les chrétiens. Tous ceux qui sont nés de nouveau, on va être enlevés. Là, vraiment, on va être... C'est la moisson. Chou! Au ciel. Donc, dans ce temps-là, ce qui va arriver, c'est que l'apostasie arrive. Apostasie, ça veut dire abandonner la base, se rebeller contre la vérité de Dieu, perdre ses repères, abandonner le sens des valeurs. Et notre ami Luc hein, nous dit ceci, bien, c'est pas lui qui le dit, mais c'est le Seigneur qui dit, Luc 18, verset 8, « Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Question à réfléchir. Ceci veut dire que la perte de la vraie foi découlera de l'absence de l'écoute de la parole de Dieu. Maintenant, que doit être l'attitude des parents dans ce temps difficile? Et je vais vous amener des exemples. Exode 2, verset 10, c'est l'exemple que je prends là, c'est celui de Moïse, puis il y en a d'autres, c'est des enfants qui ont grandi dans des temps difficiles. Hein? Exode 2, verset 10, dit ceci, « Lorsque l'enfant fut assez grand, la mère l'amena à la princesse. Celle-ci l'adopta et déclara, « Puisque je l'ai tiré de l'eau, je lui donne le nom de Moïse. » Donc, l'exemple de Moïse ici parle de parents qui ont eu la foi pour le salut de leur fils, parce que leur enfant était destiné à la mort. Et ils ont caché cet enfant-là, ils ont eu la foi. Et enfin, il a été adopté par une famille égyptienne. Moïse a été sauvé des eaux destructrices de sa génération par la foi vivante de ses parents. On va aller voir un autre jeune homme, Samuel. Hein, 1 Samuel 2, versets 18 et 19 et verset 21. On peut lire ici, « Quant au jeune Samuel, vêtu de panne de lin, il accomplissait son service en présence du Seigneur. Chaque année, la mère de Samuel confectionnait un petit manteau et l'apportait à son fils quand elle se rendait avec son mari au Silo pour offrir le sacrifice annuel. » Et au verset 21, « Le Seigneur intervint en faveur d'Anne. Celle-ci mit au monde encore 3 fils, 2 filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant le Seigneur. » À cause d'une maman pieuse, une maman attentive et d'un père fidèle à Dieu, Samuel a grandi auprès de Dieu. Et enfin, Samson, hein, dans Juges 13, verset 8, on parle encore de parents. Manoah adressa alors cette prière au Seigneur. « Seigneur, je t'en supplie, fais revenir l'homme de Dieu que tu nous as déjà envoyé pour qu'il nous enseigne la conduite à suivre envers le garçon Samson qui va naître. » Encore là, on voit des parents qui veulent faire de quoi pour leur enfant. Pas juste les laisser aller et dire « le monde va s'en occuper » ou « juste l'école du dimanche va s'en occuper ». On doit être présent dans la vie de chacun de nos enfants pour qu'eux autres aussi puissent raconter à leurs enfants ce que leurs parents ont fait, les choses que Dieu a faites. Parce que, bouchons-nous pas les oreilles, là. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Dieu fait encore des choses extraordinaires aujourd'hui. La parole de Dieu nous enseigne ce que nous devons faire pour nos enfants. On doit être des parents désireux d'observer la parole de Dieu et de l'enseigner. Dans le livre de Daniel, on voit encore un jeune homme qui refuse de se souiller avec les mets consacrés aux idoles. Et certainement, pourquoi? C'est à cause de l'enseignement qu'il a reçu de ses parents. Jean-Baptiste, Luc 1, verset 6, on parle des parents de Jean-Baptiste. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et obéissants parfaitement à toutes les lois et à tous les commandements du Seigneur. Et un peu plus loin, verset 15, « Car il sera un grand serviteur. » Ça, c'est Jean-Baptiste du Seigneur. « Il ne boira ni vin ni aucune boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. » Ça veut dire que les parents de Jean-Baptiste ont été reconnus, ou ils sont reconnus aujourd'hui pour avoir été justes et fidèles à la parole de Dieu. Et ils ont reçu même des instructions données par Dieu au sujet de l'enfant. Si on veut des instructions, ça n'apparaîtra pas écrit dans le ciel. Non, c'est dans la fidélité qu'on va avoir à lire et à méditer la parole de Dieu. Prier pour que Dieu nous dirige dans telle situation, dans telle situation, dans telle situation. Puis persévérer, pas lâcher. Dans chacun des cas que je viens de mentionner, remarquons ceci. Les parents étaient pieux, fidèles et attachés à observer la parole de Dieu. La prise en main de leur enfant, autrement dit, je suis responsable. Prise en main de leur enfant et de leur éducation commence dès la naissance. Et troisièmement, la parole de Dieu et précisément les directives concernant les enfants, vous allez en trouver dans les Proverbes, ont été scrupuleusement appliquées par les parents. Il ne s'agit pas juste de les lire. Il faut les appliquer. Dieu nous amène quand même des avertissements. On a eu l'exemple de Moïse qui a désobéi à Dieu lorsqu'il a négligé de faire circoncire son fils. Vous trouverez ça dans Exode 4, 25. Et Dieu était fâché parce que c'était une exigence qu'il demandait. Dans le Proverbe 20, au verset 11, hein, « Même un enfant manifeste par ses actes si sa conduite est claire et droite. Dès son jeune âge, un enfant laisse voir son caractère. C'est aux parents de le corriger et de l'orienter dès que possible. La personnalité de l'enfant est formée à 50 % entre 3 et 4 ans. Il faut donc agir très vite, dès la naissance de l'enfant, à partir du Verseau. Vous lirez Psaume 22, versets 10 et 11. « Seigneur, c'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère et m'as mis en sûreté contre sa poitrine. Dès ma naissance, j'ai été confié à toi. Dès que je suis né, tu as été mon Dieu. » Et une des choses qu'on peut remarquer aujourd'hui, c'est que l'amour authentique est en train de se refroidir. Et je vais terminer avec ceci. Le commandement d'aimer ton prochain s'applique très bien aux plus proches, donc à nos enfants, nos petits-enfants. Regardez bien ce qu'a été la mission de Jean-Baptiste. Il viendra comme un messager avec Dieu dans Luc 1, verset 17. Un messager de Dieu avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. Ce peuple-là, aujourd'hui, c'est nous. Nous, ceux qui sont sauvés par grâce, ceux qui sont nés de nouveau. Et regardez bien la même parole presque dans Malachie, chapitre 4, verset 6. On parle encore de Jean-Baptiste. C'est une prophétie, là, à ce temps-là. « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » C'est quoi que ça veut dire, ça, ramener les cœurs vers des pères vers les enfants par l'Esprit? Excusez-moi, c'est sec. Beaucoup de drames actuels ont pour seule cause le manque d'amour des parents qui sont devenus égoïstes. Et on commence, autrement dit, bien, on commence, ça fait déjà un bout que c'est fait, mais on manque de compassion pour nos enfants. David a agi de la même façon envers son fils Absalom. L'histoire, c'est dans 2 Samuel. Hein? Vous avez le roi Salomon qui a tranché, hein, lorsque l'enfant d'une des... Il y avait 2 prostituées qui ont eu 2 enfants et un des enfants est mort. Et là, la celle dont l'enfant est mort a pris l'enfant de la femme qui avait accouché d'un enfant qui restait vivant. Et pendant qu'elle dormait, cette dame-là, elle a dit que c'était la celle. Et le roi Salomon, lui, dans toute sa sagesse, parce qu'il avait prié le Seigneur pour avoir justement cette sagesse-là, a dit « Amenez-moi l'enfant ». Et là, il a sorti son couteau, son épée, et là, il est venu pour le trancher en 2. Et la vraie mère, ce qu'elle a fait, parce qu'elle a agi avec beaucoup de compassion, elle a dit, « Non, non, laisse-lui la vie sauve, je lui donne l'enfant. » Et là, Salomon a agi de la bonne façon, c'est qu'il a donné justement l'enfant à la mère à qui il appartenait. Donc, on a besoin de compassion. Le père du fils prodigue a oublié le déshonneur que son fils lui avait fait, les souffrances qu'il a dû endurer, et il a accepté son fils. Donc, les parents ont besoin de la présence de l'Esprit-Saint, parce que c'est l'Esprit-Saint, c'est de l'Esprit-Saint que vient le vrai amour. Et je conclue avec ceci. Romains 5, verset 5, qui dit que l'amour est le premier des fruits de l'Esprit. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Aimer, chers parents, puis je me parle à moi-même aussi, c'est de se donner à nos enfants. Donner notre temps. Donner de notre personne. Pas juste les plugger devant la télévision, dans la télévision avec les machines. Se faire tout à tous, comme Paul a fait dans son ministère d'évangéliste, et leur donner le meilleur de nous-mêmes. Puis si vous allez me dire, « Ouais, mais là, ils vont devenir, autrement dit, gâtés, pourris. » Si vous le faites de la bonne manière, là, c'est pas des bébelles que je vous dis d'acheter, là. C'est donner son temps. Il faut les conduire à Jésus. Les gagner à Christ. Et non se satisfaire en leur donnant de l'argent. T'as besoin? OK, 20 piastres, tiens. Achète-moi plus. Achète-moi plus. Aimer veut dire garder le contact. Pour éviter les angoisses. Regardez ce qui est arrivé à Marie et Joseph lorsqu'ils ont amené Jésus ils ont amené Jésus avec lui, puis là, pour un temps, Jésus est rentré dans une synagogue, puis là, il a commencé à parler. Puis là, les parents sont devenus inquiètes, anxieux, remplis d'angoisse. Faisons pas ça. Gardons le contact. J'ai déjà agi de cette façon-là en coupant le contact avec une de mes filles. Couper le pont, qu'on appelle. Mais je suis reconnaissant devant le Seigneur parce que ma femme a continué à prier pour moi. Pour que je puisse devenir un peu plus mou. Puis j'ai eu le courage d'appeler ma fille puis de demander pardon. Il ne faut pas perdre le contact avec nos enfants. En terminant, je dis ceci, que les parents ont besoin de l'aide du Saint-Esprit pendant les temps difficiles. Le Saint-Esprit qui est appelé le Consolateur, c'est celui que Jésus a promis avant que lui parte pour aller vers le Père. C'est Dieu en nous. Et nous avons besoin de sa présence dans nos vies en obéissant à ce qu'il nous dit. Vous savez, des fois, on a peur de parler du Saint-Esprit là, dans les églises à caractère baptiste. Mais non, il faut en parler parce que le Saint-Esprit, il est vivant, il est dans notre cœur, puis aussi, il nous parle par sa parole. Père éternel, merci pour ce temps précieux qu'on vient de passer ensemble dans ta parole, Seigneur. Qu'on puisse se retourner cette semaine afin de voir ce que tu as pour nous. Merci pour ce temps merveilleux avec la louange ce matin, avec la direction du culte, Seigneur, avec nos enfants qui sont en bas. Et Père, je te prie pour l'année 2018, que tu puisses nous conduire à chaque jour dans la vérité et qu'on puisse rechercher les contacts qui sont perdus, qu'on puisse être présent dans la vie de nos enfants, qu'on puisse être présent dans la vie de nos petits-enfants et qu'on puisse être un témoignage vivant dans la vie de chacun d'eux. Qu'on puisse les aimer, qu'on n'ait pas peur de dire « je t'aime ». Et c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on te prie. Amen.